accès libre.
Ou encore s'absenter cette semaine. Alors, c'est moi, Christiane Capagnan, recherchiste de l'émission, qui va assurer l'animation de cette émission. Ainsi, si vous nous écoutez en direct de l'émission J'entends des voix, qui suit tout de suite après. Alors, aujourd'hui au programme, on parlera des personnes handicapées qui sont exclues du virage numérique gouvernemental. On en parlera avec Antoine Perrault, directeur général du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. On aura aussi la réaction du RAPLIC à l'annonce de la Ville de Montréal concernant l'augmentation du montant pour le programme d'adaptation de domicile. On parlera de violence conjugale et plus précisément de violence envers les femmes en situation de handicap avec Karine Mirgiani Jean-François du Réseau d'action des femmes handicapées Canada. Mais on va, dans quelques instants, parler de ce qui se passe un peu d'Hydro-Québec et de ce qui se passe sur la Côte-Nord avec M. Christian Ratté. On en a parlé il y a quelques mois à Accès libre. Il y a quelques mois, M. Christian Ratté était en voyage et il s'est rendu compte que les bornes de recharge pour les voitures électriques d'Hydro-Québec n'étaient pas accessibles. Il s'est plaint et sur le coup, on lui a fait une réponse qui disait « Nous suggérons à tous nos clients à mobilité réduite d'être accompagnés lors de l'utilisation des bornes de recharge du circuit électrique. » Ce n'est pas une nouvelle, ce n'est pas une réponse qui vous avait satisfait, M. Ratté.
Non, pas du tout. Surtout ma blonde, elle fumait pas à peu près.
J'imagine, hein, parce que c'était pas, une réponse qui met l'accent sur l'autonomie et l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. Mais depuis, Hydro-Québec a fait son mea culpa et ils vous ont contacté pour vous consulter pour améliorer leur accessibilité.
Oui, suite à toute la sortie dans les médias qu'il y a eu à la suite dans mon propos que j'ai fait au journaliste TVA et puis l'entrevue qu'on a faite. Hydro-Québec sont revenus sur leur façon de voir les choses, on pourrait dire.
Oui.
Et puis, ils ont décidé de nous contacter. Moi, je leur ai proposé, regardez, il fait longtemps que je suis en fauteuil roulant, j'ai beaucoup voyagé, j'ai une formation technique aussi, alors... Si vous voulez, on pourrait peut-être regarder des nouvelles bornes ou des modifications possibles qu'on pourrait faire sur les bornes pour savoir comment faire pour que ça soit beaucoup plus accessible, adapté aussi là, de façon plus user-friendly pour tout le monde, là, pas juste pour des personnes à mobilité réduite. Les personnes qui sont pas tellement grandes, les bornes étaient, les écrans étaient hauts, un paquet de détails comme ça que je leur avais mentionné, puis ils avaient trouvé mon point de vue très intéressant. Alors, il y a trois semaines, j'allais à Québec, alors on a regardé tous ensemble avec leur fournisseur, avec un représentant du Hydro-Québec, qu'est-ce qui était possible. Là, il avait déjà fait un démo.
Oui.
Et puis, leur démo, il y avait eu des bonnes choses à faire. Les poignées étaient descendues, les poignées étaient plus sur le côté. Regardez pour mettre les poteaux de sécurité un peu plus larges, pour qu'on puisse bien passer. Mettre les écrans plus basses. Il y a un paquet de petites choses aussi que je reparle encore avec eux autres pour améliorer. Je vous dirais que les prochaines générations vont être beaucoup plus... facilitante pour tout le monde.
Là. Est-ce qu'on a une idée de quand est-ce qu'il y aura cette nouvelle génération?
Les prochaines qui vont être installées devraient être beaucoup mieux. Il y en a même qui ont été installées à Trois-Rivières. Je suis allé à Trois-Rivières avec eux autres pour regarder justement les nouvelles qui sont faites par un autre fournisseur. Là. Ils vont utiliser deux fournisseurs dans l'avenir pour les prochaines bornes. Et puis... c'est ça, Trois-Rivières, à la Caisse populaire, les bornes sont déjà plus faciles à utiliser.
Donc, on peut dire qu'Hydro-Québec commence à comprendre le principe que pour offrir des choses accessibles, le mieux, c'est de commencer à impliquer des personnes en situation de handicap plus tôt dans le processus.
Oui, je pense qu'ils ont commencé à à comprendre ça. Puis au Québec, je sais que c'est pas toujours facile de voir ça de même, mais il y a un côté, quand on a voyagé à l'extérieur, on se rend compte que le Québec, pour toutes sortes de raisons que un peu nébuleuses, il y aurait moyen de faire mieux que par rapport à l'Ontario, par rapport à l'Alberta. Soit avoir des législations plus sévères ou je ne sais pas, là, mais faire des choses un peu plus accessibles.
Vous avez voyagé souvent pour tester l'accessibilité ailleurs comme ça?
Ben, j'ai voyagé beaucoup. Moi, je suis en fauteuil depuis j'ai l'âge de 3 ans. J'ai beaucoup voyagé en Amérique. Un peu en Europe, mais pas beaucoup. Mais j'ai fait à peu près toutes les grandes villes canadiennes à plusieurs reprises. La majorité des États-Unis, fait que par rapport au reste de l'Amérique, oui, je peux. J'ai un bon point de vue.
Avez-vous eu l'occasion de tester des bornes de recharge ailleurs?
Non, ça, je ne l'ai pas fait parce que j'ai ma voiture électrique juste depuis le mois de septembre.
Donc, ça fait pas assez longtemps.
Ça fait pas assez longtemps.
Est-ce que...
Et puis, les seuls autres que j'ai vraiment pu tester, c'est à Saint-Nicolas. Il y a un Petro-Canada. Ils ont des bornes de recharge. De plus en plus, les pétrolières. Bon, en tout cas, Petro-Canada veulent en mettre. Et puis, ces bornes-là, je trouvais qu'elles étaient comme beaucoup plus accessibles, là.
OK, donc même du côté du privé, on trouvait mieux que chez Hydro-Québec.
Eh oui.
Est-ce que vous prévoyez que cette collaboration-là va se prolonger?
Je le souhaite. Pour l'instant, peut-être pas, mais ça serait une très bonne chose de le faire le plus possible, là, oui. Moi, en tout cas, je suis ouvert à la possibilité.
Comme vous êtes, vous habitez à Sept-Îles, vous êtes de la Côte-Nord, on a décidé, parce que ça ne donne pas souvent qu'on parle d'accessibilité sur la Côte-Nord à notre émission, alors on a décidé de profiter du fait de vous avoir au bout du fil pour parler de ça aussi. Tout d'abord, vous êtes administrateur d'un organisme qui s'appelle le module épanouissement à la vie. C'est quoi la mission, les services de cet organisme?
Le MEL, comme on appelle par ici. C'est un organisme qui, en passant, existe depuis 1970 à Sept-Îles. C'est un organisme qui s'occupe du droit et des défenses des personnes ayant un handicap physique.
Pouvez-vous me donner des exemples de campagnes de sensibilisation, par exemple, que vous auriez menées?
L'année passée, on s'était promené dans les stationnements de personnes handicapées. On avait sensibilisé le monde sur le fait que c'est important de ne pas utiliser les parkings de personnes handicapées, donner des pamphlets. Après ça, on a fait l'année passée aussi, on voulait sensibiliser sur le fait que plusieurs passages de piétonniers,
oui,
aux lumières, aux intersections, n'avaient pas de signal sonore. Donc, c'est vraiment pas pratique pour les personnes ayant une déficience visuelle. Alors, on avait fait comme démontrer que c'était très important au niveau de l'administration municipale. Et puis, on a d'autres mandats toujours un petit peu particuliers. Et aussi, on a nos bureaux. On donne toujours plein de renseignements à nos membres. Alors, pour toutes sortes de raisons, qu'est-ce qui est possible de faire pour l'adaptation? Qu'est-ce qui est possible de faire leurs droits aussi au niveau des recours, etc.
Est-ce que vous avez une bonne écoute de la part de la municipalité?
Ici, à Sept-Îles, oui.
Oui.
Honnêtement, oui. Oui, je trouve qu'on a une très bonne écoute. L'ensemble, ils font quand même des bons efforts au niveau de la municipalité ici à Sept-Îles.
Le transport adapté, ça se passe comment à Sept-Îles?
Je vais être honnête avec vous, j'ai mon auto, je suis pas très au courant du transport adapté. De qu'est-ce que je vois, c'est pas pire qu'ailleurs, mais je peux pas vous en dire beaucoup plus.
On avait parlé un petit peu, hors onde, la semaine dernière, vous m'aviez parlé peut-être d'un manque de service en dehors des heures de travail.
Oui, la plage horaire est plus limitée que durant en dehors des heures de travail. Là. Je sais que la fin de semaine, on peut l'avoir, mais je veux dire, c'est pas toujours facile. Et puis le soir, c'est pas toujours facile de l'avoir, mais il y a une possibilité, là.
Un autre enjeu quand on parle de vivre en région plus éloignée, éloignée des grands centres en tout cas, parce que l'éloignement c'est relatif, là. C'est peut-être nous qui sommes loin de vous, mais on parle d'accès aux services de santé ou aux spécialistes, notamment si notre enfant a un diagnostic de maladie grave ou de handicap, c'est compliqué d'aller se faire soigner, surtout ça coûte cher.
Oui, c'est souvent le problème. Quand on vit en région, c'est le manque d'accessibilité auprès des spécialistes. C'est pas évident d'aller consulter toujours quand on a 6 heures, 8 heures de route à faire ou prendre l'avion qui coûte 300-400 $ juste pour en aller. C'est pas évident d'aller consulter les spécialistes. Veux pas, la population est pas assez grosse, l'hôpital est pas assez gros. Alors, on n'a pas de spécialistes énormément ici, là. Fait que à tout bout de champ, faut qu'on se déplace, prenne une journée d'eau, 8 heures de route. Alors même si ta capacité de voyager, ça demeure 8 heures de route, être obligé de prendre un hôtel, les restaurants. Alors on peut parler de 500 $ facilement là, pour juste aller consulter un spécialiste, rendez-vous annuel. Là. On n'a pas passé d'examen là-dessus, on n'a rien fait. Là.
Oui, je comprends tout à fait. Ben, d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va suivre, puisque la semaine dernière, il y a des députés de l'Est du Québec qui ont demandé au ministère de la Santé de revoir sa politique d'aide financière pour les patients qui doivent se déplacer. Alors, on va suivre ça, mais on va aussi suivre cette histoire de bornes de recharge. Et M. Raté, si vous faites à nouveau affaire avec Hydro-Québec, on sera intéressé à suivre le dossier et à reparler avec vous.
Ben, je vous contacterai et puis ça va me faire plaisir.
Merci.
Et puis je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir. C'était M. Christian Raté.
Behind the square of stone, under the English moon, within the I hope you find your way, for the sake of what we've lost, and that there comes a day when you realize the precious cost. Yes, I remember smiles, yes, I remember words behind the square of Sloan, under the English moon, you in your disguise, sir.
Compositeur Rufus Wainwright, c'est une nouveauté, Damsel in Distress, première pièce d'un futur album qui va s'appeler Unfollow the Rules. C'est comme un retour du Rufus vraiment pop un peu. Il y a eu toutes sortes de trips dans les dernières années là, où il sortait tout son côté, je trippe sur les comédies musicales et tout ça, sur Judy Garland. Mais là, il me semble qu'on retrouve le Rufus des débuts, le Rufus de Poses que j'ai toujours préféré. Récemment, j'ai reçu un communiqué qui provenait de la COFAN et qui était aussi signé par le regroupement des aveugles et amblyopes du Québec ainsi que par l'Europe 03 dans la région de Québec, qui disait qu'on considère que les personnes handicapées sont exclues du virage numérique gouvernemental. Pour nous expliquer de quoi il en découle, on a justement au téléphone Antoine Perrault, qui est le directeur général du RAC. Bonjour Antoine.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien. Quand on parle, bon, premièrement, peux-tu nous expliquer un petit peu le contexte là, de cette annonce-là, de ce vie? Qu'est-ce que le gouvernement est en train de faire?
Bien, il faut comprendre que le gouvernement, ça fait plusieurs années, amorce un virage numérique, ce qui est très normal. Là. Je pense qu'on constate tous que la société se dirige vers le numérique. Donc, ça fait de nombreuses années, on pense à 2016-2017, quand il a lancé une stratégie numérique du Québec, avec une consultation qui n'était toujours pas accessible à cette époque-là. Puis ça se poursuit, et là, le gouvernement a officialisé ça. Maintenant, on parle de transformation numérique. Donc, on est vraiment dans le gouvernement se dirige vers les nouvelles technologies, le numérique. Et bien là, le RAC et la COFAN et l'Europe, comme toujours, on reste à l'affût parce que dès qu'on parle de numérique, on parle d'accessibilité du web.
Bien entendu.
Et on parle de standards qui existent pour le gouvernement.
Oui, c'est ça qui est étonnant.
Depuis plus de 9 ans maintenant, qu'on a aidé à moderniser dernièrement. Et pourtant, malgré ces standards-là, malgré ces obligations-là que le gouvernement a, ben, on constate qu'ils ont mis à jour une plateforme qui s'appelle Consultation Québec, qui permet de consulter les citoyens justement à travers le numérique, sur Internet. Et ben, cette plateforme-là n'est pas accessible.
Donc, c'est la deuxième fois qu'ils font des consultations dans le cadre de ce processus-là, et ça fait deux fois que c'est pas accessible. Et j'imagine que vous leur aviez parlé entre les deux.
Ben, nous, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, la première consultation, il y en a eu plusieurs, là, il y en a eu plusieurs, mais la première consultation qui était ce qu'ils appelaient objectif numérique, elle était sur une plateforme web qui n'était pas accessible. La consultation n'était pas accessible, on leur a souligné. Là, ce qui est particulier, c'est qu'ils ont mis en place ce qu'ils appellent Consultation Québec, qui est vraiment un site web, une plateforme numérique pour consulter les citoyens. Alors, sur cette plateforme-là, il y a plusieurs consultations différentes qui vont pouvoir avoir lieu.
Okay.
Et l'idée, nous, quand on l'a vu apparaître, cette plateforme-là, on était très contents. On se disait, c'est parfait, parce que s'il y a une plateforme et que celle-ci respecte les standards d'accessibilité du web, ben, les consultations gouvernementales, à partir de maintenant, vont être nécessairement accessibles.
Mais si elle n'est pas accessible, ce sont toutes ces consultations qui ne le sont pas.
Et voilà, donc le cas, c'est que maintenant, on se rend compte que consultation.quebec.ca n'est pas accessible, ou du moins ne respecte pas complètement les standards gouvernementaux sur l'accessibilité des sites web, ce qui fait que pour plusieurs personnes qui vont tenter de remplir les sondages qui sont là, les consultations qui sont en ligne, ben, ils ne pourront pas le faire.
Mais quand on parle d'accessibilité pour les personnes qui utilisent un lecteur d'écran, c'est bien ça?
En fait, quand on parle des standards d'accessibilité du web dont le gouvernement s'est doté, on parle de l'ensemble des situations de handicap. Donc, on parle de toutes les limitations. C'est un standard qui est extrêmement large et qui prend en considération l'ensemble des limitations dans dans le développement d'un site web pour rendre ce site web accessible.
Est-ce qu'il y a une catégorie? Mais pour ce qui est de cette plateforme-là, est-ce qu'elle est vraiment pas du tout accessible ou elle est plus ou moins selon les types de handicap?
Elle est plus ou moins selon les types de handicap. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que les contenus non conformes, c'est la barre de recherche, les boutons de vote, les images générées automatiquement, des menus déroulants. On parle quand même de choses majeures.
Absolument.
Puis, ce qui est ironique, c'est que quand on va sur la... Parce que les standards obligent le site web à avoir un onglet accessibilité.
Oui.
Et quand on clique sur cette page accessibilité-là, ben, on voit que ça mentionne très clairement que cette page-là est soumise aux standards. Et plus bas, ça marque contenu non conforme et ça liste les contenus qui ne sont pas conformes.
Et là, si on n'est pas accessible dans le processus vers un virage pour un État plus numérique, c'est inquiétant pour la suite?
C'est un peu ce que le communiqué de presse souligne, parce que ceux qui ont eu la chance de lire le communiqué de presse, ce qu'on met de l'avant, c'est qu'actuellement, il y a une consultation pour connaître l'opinion de la population afin d'élaborer un plan d'action pour un gouvernement ouvert 2021. Quand on parle de gouvernement ouvert, on parle de transparence, on parle de... Tout ça pour le numérique, là, on s'entend.
Oui.
On parle de numérique, on parle de transparence au niveau du numérique, on parle de consultation, mais... Puis c'est un peu ce que le communiqué de presse souligne. Quand on parle de ces enjeux-là, pour nous, la base de la transparence, c'est de s'assurer que l'ensemble des citoyens québécois puissent avoir accès à l'information, minimalement la lire.
Absolument.
Puis ce qu'on constate, c'est que le gouvernement, il y a cette partie-là qui manque, parce que quand on va sur la plateforme Consultation Québec, même là, il y a des personnes qui ne pourront pas avoir accès à toute l'information.
Est-ce que ça arrive souvent que les sites du gouvernement ne respectent pas les critères d'accessibilité du gouvernement?
On a la chance pour l'instant d'avoir un gouvernement qui se dirige vers une plateforme unifiée. Donc, pour ceux qui suivent un petit peu ça, il y a un site en développement qui s'appelle Québec.ca. Idéalement, le gouvernement vise à long terme à mettre la très, très large majorité de l'information des ministères là. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que cette plateforme est accessible. Donc, on espère de plus en plus que tous les contenus qui vont être ajoutés, puisque ça va se faire à travers cette plateforme-là, ça va être accessible. Ceci étant dit, ça n'excuse pas le fait qu'une consultation Québec qui a été développée, mise en ligne après l'adoption des standards, après même la modernisation des standards, ou à peu de choses près en même temps, ne respecte pas ces standards-là.
Oui, donc est-ce que la solution, c'est seulement que vous restiez, vous, aux aguets, ou il faudrait qu'il y ait plus de personnes qui connaissent l'accessibilité et ou qui sont en situation de handicap qui soient impliquées dès le développement des sites?
C'est sûr que les solutions à ce problème-là sont multiples. On pense à la formation à la base des développeurs web qui n'ont pas toujours une bonne idée de c'est quoi l'accessibilité du web. Pour ça, c'est une priorité que le gouvernement... que les ministères mettent ça en priorité dans le développement d'un site web, mettre l'accessibilité du web au centre d'un développement web, c'est à mon sens aussi quelque chose qui est primordial. Mais il y a aussi, puis ça on le met de l'avant à chaque fois qu'on fait la représentation, il y a aussi une importance qui est respecter les standards, les voir comme une simple case à cocher de j'ai respecté ça, ça et ça, ce n'est pas suffisant. Il faut aller vers des tests utilisateurs. Et en ce sens-là, oui, il faut que les personnes en situation de handicap soient impliquées dans le développement de ces sites-là pour minimalement qu'ils puissent tester ces plateformes-là puis indiquer si oui ou non ils sont utilisables. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au-delà de l'accessibilité du web comme standard, il y a un côté d'utilisabilité. Il faut que la personne puisse l'utiliser. L'objectif, au final, c'est pas de respecter toutes les cases d'un standard, c'est que la personne en situation de handicap puisse naviguer sur le site web.
Un autre sujet dont on voudrait vous parler rapidement là, pendant qu'on vous a avec nous, Antoine, c'est qu'on a découvert sur le site du RAC que les personnes en situation de handicap visuel peuvent avoir accès à des forfaits cellulaires exprès pour elles.
Oui, tout à fait.
C'est quoi au juste? C'est un prix plus avantageux avec des services accessibles?
Bien, ça dépend. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça vient du CRTC, ça, à l'origine,
okay.
Qui demande aux fournisseurs de services sans fil qui offrent des forfaits de services sans fil mobile qui répondent aux besoins des Canadiens handicapés. Ça, oui. C'est littéralement ce qui est marqué. Donc, c'est sûr que les fournisseurs de services développent des forfaits qui prennent en considération les besoins des Canadiens handicapés. Nous, on a été consultés il y a quelques années à ce niveau-là. On a consulté nos membres là-dessus, on a amené des éléments d'information. Pour l'instant, ce qu'on semble voir, c'est que la majorité de ces fournisseurs-là considèrent que d'offrir un rabais sur les forfaits, c'est quelque chose qui répond aux besoins des Canadiens handicapés. Donc, ça va varier. Là. En moyenne, ce qu'on voit, c'est entre 20 et 10 $ de rabais sur des forfaits.
Alors, pour comparer, on va sur les sites des différents fournisseurs et il y a un lien à partir du site du RAC pour aller les comparer.
On ne les a pas tous mis. On a mis les généraux,
okay.
les plus gros qu'on connaissait, juste à titre indicatif. On vous encourage à les appeler. Ce qu'on trouve important de dire, c'est sûr que c'est quelque chose que c'est pas tous les... Puis ça, on veut le mentionner parce que on le constate de plus en plus. On reçoit de plus en plus de messages qui disent que c'est pas toutes les compagnies qui sont autant au courant de leur propre forfait.
Voilà.
Donc, c'est pas parce qu'on appelle en disant « j'ai droit à ce forfait-là » que la personne au service à la clientèle va le savoir. On vous avise, ça se peut que vous ayez été transféré quelques fois, ça se peut que vous ayez à le dire, à leur envoyer le site web, mais ça vaut la peine de passer par Internet et d'aller voir les forfaits parce que si vous avez la page web, disons que ça peut accélérer le processus un peu.
C'est avantageux d'en savoir plus long que la personne avec qui on va avoir affaire au bout du fil.
En fait, c'est dommage qu'on se rende compte de ça, mais on se le fait dire pour plusieurs compagnies. Ah ben j'ai appelé, puis ils m'ont dit qu'ils étaient pas au courant, il a fallu que je parle à deux, trois personnes, ils m'ont transféré.
On doit se quitter Antoine, mais c'est un dossier qu'on va continuer à suivre ici à Accès Libre. Antoine Perrault, directeur général du Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Vous écoutez Accès Libre.
Rebonjour tout le monde, Christiane Capagna toujours avec vous en ce lundi de début mars. Dans quelques minutes, on va parler à Linda Gauthier. On va avoir la position du RAPLIC sur l'annonce que la Ville de Montréal a fait la semaine dernière au sujet du fait qu'on doublait le financement du programme d'adaptation domicile, qu'on ajoutait aussi différentes choses qui allaient améliorer la flexibilité du programme. On va aussi parler de violences conjugales et plus particulièrement en ce qui concerne les femmes en situation de handicap en fin de demi-heure. Mais là, je vais commencer par vous parler un petit peu de cinéma. Ça peut sembler un petit peu étonnant à Accès Libre, mais il y a eu deux choses du côté de la France récemment. Premièrement, on en parle déjà beaucoup ce matin dans les journaux, du film « J'accuse » de Roman Polanski qui a remporté un César et de toutes les discussions qui s'en suivent sur... le créateur et son œuvre. Maintenant, quand on dit qu'on sépare ou pas les choses, jusqu'où va-t-on et qu'en est-il de l'audiodescription? Parce que depuis l'année dernière, il y a un organisme en France qui décerne le prix Marius autour des Césars. Parmi les films en nomination, ils choisissent un film qui a la meilleure audiodescription et cette année, le Marius 2020 est décerné à Raphaël Valenti pour son audiodescription du film « J'accuse » de Roman Polanski. C'est une troisième édition du prix Marius qui s'est déroulée à Paris le 26 février dernier. L'organisme qui organise ça, c'est la Confédération française pour la promotion des aveugles et amblyopes. Et après avoir écouté les audiodescriptions des 7 films nommés pour les Césars, leur jury, qui est composé de 137 personnes, a choisi ce film-là. Pour faire son choix, le jury a analysé plusieurs éléments, les informations écrites à l'écran, la voix, la rédaction. On veut qu'elle soit simple et concise. On veut que l'intonation ait une certaine neutralité. On veut avoir tous les génériques, les noms, les années. Mais on a évalué aussi la cohérence de la description. Et c'est donc ce film-là qui a remporté le film « J'accuse » de Roman Polanski, « Le Marius » de la meilleure audiodescription. C'était aussi la semaine dernière en France la remise des lauréats du Festival du film sur les handicaps. Si vous voulez connaître les gagnants, je vous invite à aller faire un tour sur le site handicap.fr. Et là, juste avant de parler à Linda Gauthier, on va écouter un extrait. Hélène Denis, notre collègue de l'émission Quotidien, s'est entretenue la semaine dernière avec M. Robert Baudry de la Ville de Montréal, du Conseil exécutif, qui nous parlait de ces changements faits au programme d'adaptation de domicile.
Non, en fait, on a voulu être beaucoup plus flexible aussi. Dans le fond, au niveau de ce programme-là, pour disons que l'augmentation, c'est le changement le plus majeur qui permet justement, parce que souvent, c'est des propriétaires qui sont pas nécessairement occupants, qui vont faire les travaux, qui permettent là, d'encourager plus de propriétaires possibles à les faire parce qu'ils doivent pas décaisser de leur poche. Mm-hmm. Les montants devraient couvrir tous les travaux. Mais il va y avoir aussi plus de latitude laissée aux personnes en situation de handicap pour le choix des matériaux. Des pièces à adapter aussi. On a ajouté certaines pièces, comme par exemple le bureau, qui n'était pas intégré dans l'ancien programme et maintenant qu'il l'est, parce que ce qu'on se dit, c'est qu'il y a beaucoup de travailleurs autonomes à la maison, donc qui ont besoin aussi d'avoir un bureau adapté.
Oui.
Donc on intègre aussi ça. Ensuite, c'est vraiment par pièce, non pas par type de matériau. Donc, dans le passé, si le programme disait ben il fallait que ce soit des tuiles de 10 $ par exemple, par tuiles, mais si le propriétaire choisissait des tuiles de 12 $ ben il devait payer la différence. Mais là, c'est le complet sur la pièce, en fait, là, qui est couvert. Donc, peu importe la valeur de la tuile. Puis aussi, ben l'admissibilité, maintenant, ne dépend plus non plus du statut d'immigration. Donc, toute personne là avec en situation de handicap peut avoir accès à ce projet-là.
Alors, c'était M. Baudry qui expliquait que non seulement le montant est doublé, mais qu'on avait ajouté plus de flexibilité aux critères et à ce qui pouvait être fait comme travaux. Bonjour Linda.
Bonjour Christiane.
Ça va bien?
Bien, toi?
Oui. Est-ce que cette annonce, pour vous, c'est une bonne nouvelle?
Bien, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est clair. Sauf que de là à dire que c'est quelque chose qui est vraiment, écoute, qui révolutionne le programme PAD, non. On est sceptique sur certaines choses, puis on met des bémols sur les autres, je veux dire.
Mais tout d'abord, ça a l'air spectaculaire de dire doubler, mais disons que ça faisait longtemps que c'était la même chose.
Ben c'est ça. Ça faisait combien d'années? Écoute, 15 ans, je pense que c'était jamais à 16 000 $ dans les premières années, ben ça pouvait couvrir quand même pas mal de choses. Mais là, à la fin, écoute, moi, j'ai fait refaire ma salle de bain il y a 4 ans, à peu près de ça, 4-5 ans. Et puis déjà, là, il fallait qu'ils respectent quand même le décret pour payer leurs employés. Fait que je vais te dire que les matériaux, c'était du bas de gamme. Puis, tu sais, autant les tuiles que la robinetterie, ces choses-là, moi, j'ai déjà changé mes robinets, là, une fois, parce que les cartouches, je sais pas comment appeler ça, en tout cas, c'était fini. Fait que, tu sais, c'est maintenant, avec le, si on ramène ça, avec les coûts du jour, et puis toujours les salaires, évidemment, qui sont impliqués, on doublera pas, là. C'est clair que ça sera pas doublé. On peut peut-être pouvoir faire un petit peu plus de choses, mais si encore là, il y a une salle de bain qui est impliquée, c'est plus 15 000 que ça coûte, là, c'est rendu pas mal 20 000. Fait qu'il va rester 15 000 pour faire autre chose, en souhaitant que ça prenne pas trop de... Puis tu sais, tout est plus cher maintenant, fait que c'est clair qu'on pourra pas en faire autant que c'est dit, là. On a aussi des restrictions, tu sais, on n'est pas sûr, là, quand tu parles des propriétaires qui devaient faire, il y en a même des propriétaires qui ne veulent pas qu'il y ait des travaux qui soient faits dans leur immeuble, que ça soit un programme PAD ou pas, tu sais. Ça, ces propriétaires-là, ben, nous autres, leur rappeler qu'on les amène souvent devant la commission, les droits de la personne, parce que c'est un droit de vivre chez toi, d'être en sécurité, d'être bien. T'sais, ça, c'est une autre affaire. C'est un aspect qu'eux autres n'ont pas parlé, mais en tout cas, c'est vrai que ça peut alléger dans des cas que le propriétaire faisait lui-même les travaux. J'ai pas vu ça souvent, mais ça se peut.
Parce que c'est ça l'enjeu pour Montréal, si on compare par exemple à une banlieue, c'est à quel point les gens sont souvent locataires.
Oui.
Et donc, il faut convaincre un propriétaire.
Ben oui, il faut le convaincre parce que ça prend définitivement son accord. Mais comme je te dis, s'il ne veut pas, ben à ce moment-là, pour nous, c'est un cas de discrimination. Tu sais, le rappeler que c'est de cet angle-là qu'on le voit. Fait qu'à ce moment-là, ben on demande au locataire s'il veut porter plainte. Puis on amène la plainte devant la commission. Mais ça ajoute au délai, je dois avouer.
Oui, parce que les délais, c'est une des choses qui vous préoccupe.
Oui, tout à fait. Puis là, ben on dit qu'on réduit en moyenne, là, OK, tout dépendant des CLSC avec qui, évidemment, le locataire fait affaire, parce que ça prend un ergothérapeute pivot, hein, la plupart du temps dans un dossier. On réduirait ça de 18 mois à 12 mois. Encore là, comme je te dis, je reste bien sceptique par rapport à ça. Et encore là, 12 mois, c'est extrêmement long. Puis, ce qu'on, nous, on avait revendiqué auprès de la SHQ à un moment donné, c'était que les personnes puissent être en mesure, parce que des fois, il y a la famille qui peut aider entre-temps. Que la famille puisse aider peut-être à pallier aux travaux les plus urgents, tu sais, qu'on puisse payer, puis qu'après ça, la SHQ rembourse. Mais ça n'a pas été accepté.
OK, donc le délai, c'est pas juste pour obtenir l'argent, c'est pour carrément, on doit attendre de commencer les travaux.
Absolument. Absolument. À partir du moment où tu te dis, bon, ben, regarde, moi, là, je veux faire telle affaire. Bon, ben, là, tu contactes ton CLSC, ton ergothérapeute. Puis là, elle vient te voir. Elle va faire venir, évidemment, dans un deuxième rendez-vous, la ville, qui est maître d'œuvre pour la SHQ. Et puis là, ben, ça, c'est un autre rendez-vous. Bien souvent, qu'il y a des écarts de quelques mois, là, tu sais. Puis là, ben, à partir du moment où la ville donne son OK, pour les travaux, ben là, faut que tu y ailles avec des. Tu demandes des devis. Tu demandes deux devis différents. Fait que tout ça, là, ça a pris 6 mois. Et à partir de là, quand le dossier est complet, ben là, eux autres, ils disent qu'il y aura un délai de 12 mois. C'est juste à partir de là.
À partir de là seulement?
Seulement.
OK, oui, je vois, là.
C'est ça. Fait que il y a plusieurs personnes en situation de handicap qui vont avoir le temps, malheureusement, qui peuvent pas attendre. Ils vont avoir le temps de s'en aller momentanément, puis je le mets entre guillemets, dans un CHSLD. Ben souvent, ben, ils vont passer le reste de leur jour là, tu sais. C'est ça qui est plate. On en a vu trop, beaucoup trop. Fait que je trouve pas que c'est vraiment, là, tu sais, écoute, ben, tant, c'est pas une mauvaise nouvelle en soi. Mais tu sais, je trouve qu'il y a un petit peu de poudre aux yeux, là.
Là, c'est un programme que Montréal administre maintenant lui-même.
Oui.
Mais donc, ailleurs dans la province, le montant, est-ce qu'il reste le même?
Bon, on s'est informé à la SHQ. On n'a pas eu de retour d'appel encore. On est censé nous revenir avec ça bientôt. Mais écoute, ça serait assez étonnant de dire que, parce que la province, c'est le Québec, tu sais, que dire que Montréal peut se prévaloir d'un tel montant pour ses résidents, ses citoyens, mais que Québec pourrait pas, tu sais, un locataire à Québec pourrait pas le faire. Ça serait de la discrimination, tu sais, encore là. Fait que ça m'étonnerait que ça soit pas comme ça partout.
Parce qu'on a vu un appel la semaine dernière de l'organisme Bail Mauricie, qui parle aussi du manque de logements adaptés et qui invoquait aussi la question de la pénurie des logements, parce que même avec un plus gros montant, en contexte de pénurie, ce qui vient avec une flambée du coût des loyers, les personnes en situation de handicap, c'est souvent au niveau du revenu aussi qu'ils ont de la difficulté.
C'est ça, exactement. C'est ça, au niveau du revenu. Puis, il y a une chose aussi qui serait bien importante de mentionner. C'est bien beau, la ville, là, bon, allonge, ben, c'est la ville, en fait. Il y a des annonces qui ont été faites pour doubler le montant. Ça pourrait même aller, dépendamment des revenus de l'année précédente, jusqu'à 45 000 $ paraîtrait-il, puis l'ampleur des travaux. Mais il y a quelque chose, là. Si jamais ces gens-là déménagent ou décèdent puis ils partent, OK, il faut s'assurer, hors de tout doute, que ces travaux-là ne seront pas, tu sais, si admettons le propriétaire loue à quelqu'un serait intéressé de louer, mais il voudrait que ça soit fait à l'envers, là, tu sais, là, que des rénovations soient faites pour remettre ça, comme les comptoirs qui soient plus hauts, des choses comme ça, que ça soit pas fait.
Oui, parce qu'à chaque fois qu'il y a des travaux de fait, l'espoir, c'est qu'on augmente le bassin de logements accessibles.
Bien, effectivement, tu sais, ou bien que ces logements-là ne soient pas loués à des gens qui n'en ont pas besoin. On a vu ça souvent aussi, là.
La solution serait une sorte de registre, peut-être?
Un registre, puis je veux dire des amendes, là, tu sais, qui soient écoute, dirigée vers les propriétaires si jamais il y a des gens qui sont pas en situation de handicap avec fauteuil roulant et tout ce qui s'ensuit, là. Parce que tu peux avoir des gens à mobilité réduite qui n'ont pas nécessairement besoin d'un logement full adapté, tu sais, comptoir abaissé, dégagé sous l'évier, tout ça, tu sais. Fait qu'il faut s'assurer de ça parce qu'il y en a trop peu, puis il faut les préserver.
En tout cas, c'est un dossier qu'on va continuer à suivre, voir qu'est-ce qui se passe dans le reste de la province et voir quelle est la différence entre l'annonce et la réalité. Alors, ouais. Linda Gauthier, présidente du regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec, le rapplique. Merci beaucoup, puis à la prochaine fois.
Merci, Christiane. Bonne fin de journée.
Connaît pas la crise, épanouie et l'exil, des trésors satinés, dorés à souhait. J'ordonne une expertise, mais la vérité m'épuise, inlassablement se dévoile de mes doigts de palper. Palper là, cet épiderme qui fait que je me dresse, qui fait que je bosse le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée et les vacances. Abstinence, ma petite entreprise, ma locomotive, avance au mépris des sémaphores. Le tir du néant. Qu'importe l'amour, importe. Qu'importe l'amour, s'exporte. Qu'importe le porte-à-porte en Crimée, au sud de la Birmanie, les lobbies en Libye, au Laos. Là j'écoule à mes oreilles. Petite entreprise connaît pas la crise, s'expose au firmament, suggère la reprise, embauche de gauche, inlassablement on se dévoile, et mes doigts de palper là cet épiderme qui fait que je souque, qui fait que je toque à chaque palier, escalier, ces bâtiments B. L'oreille de ses lèvres. Qu'importe l'amour, importe. Qu'importe l'amour, s'exporte. Je perds le nord, garde-forme. Quand je vois se poindre les pyramides, nez à nez, mes lubies. Là, j'y coule à mes oreilles, ma petite entreprise. Connaît pas la crise, épanouie et l'exhibe, les trésors satinés, dorés à souhait. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube. Le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube.
Je suis un homme de mauvaise foi. Ce que tu me racontes, je n'y crois plus. C'est comme toutes ces histoires de cul. Y'a que toi pour inventer ça. Je suis un homme de mauvaise foi. Ni catholique, ni Jéhovah. Ni psychédélique, ni granola. J'suis ordinaire comme ça se peut pas. J'ai pas envie d'être sérieux. J'ai pas envie de me mentir. J'ai pas envie de jouer le jeu. Perdre la face et repartir. Je suis un homme de mauvaise foi. Je conduis mon char, j'ai pas de permis. Je travaille trop fort pour mon whisky. Et pas de coûte cher à part de ça. J'ai pas envie d'être sérieux. J'ai pas envie de me mentir. J'ai pas envie de jouer le jeu. Perdre la face et repartir. Je mène ma vie comme je le peux. J'ai pas trop l'impression de vieillir. J'suis pas plus brillant, j'suis pas plus niaiseux. J'sais bien qu'un jour je vais mourir. Je suis un homme de mauvaise foi. Faut-il que tu croies ce que je te dis? J'ai peur comme tous les autres aussi. De perdre l'ombre de ma croix.
On vient d'entendre des chansons de Fred Fortin et de Alain Bashung juste avant. Malheureusement, on a des difficultés à joindre notre invité pour le prochain sujet. Alors, on va se tourner du côté de la presse, puisque d'habitude, c'est ça ma spécialité à cette émission-là, c'est de faire une revue de presse de l'inclusion. On va aller tout d'abord du côté du Canada anglais, parce qu'on... On essaie le plus possible de traiter de nouvelles de tout le pays à Accélibre, mais la difficulté... c'est des interlocuteurs et les nouvelles francophones. Alors, parfois, je traduis quelques nouvelles que j'ai trouvées dans les médias. Donc, à la suite d'un resserrement de la sécurité à l'hôtel de ville, il y a eu un problème de communication à Toronto qui a vraiment suscité des inquiétudes quant à l'accessibilité du bâtiment. Plus tôt en février, la ville de Toronto a modifié son processus de tri des visiteurs à l'hôtel de ville. L'entrée sud du côté du Nathan Phillips Square est désormais normalement le seul endroit pour accéder au bâtiment pour ceux qui n'ont pas un laissez-passer. Et les visiteurs doivent faire examiner leur sac. Bon, c'est comme quand il y a un détecteur de métal. C'est comme vous entrez dans les grands festivals maintenant. Mais lorsque le changement a été annoncé pour la première fois, le service des communications de la ville a omis de préciser ce qui arrivait avec l'entrée du bâtiment sur la rue Hagerman. Normalement, ce que ça disait, c'est que ça ne pouvait plus être utilisé par le public, mais c'est celle-là, l'entrée, qui est utilisée par les personnes qui utilisent le transport adapté. Et c'est cette entrée-là qui a une rampe, alors c'était vraiment problématique. Alors, ça a incité un militant, Adam Kuhun, à passer à l'action. Il dit en plus, c'est vraiment le meilleur endroit pour prendre son transport, c'est l'endroit le plus sécuritaire. Alors, C'est un habitué de la mairie, lui donne souvent des présentations sur les questions d'accessibilité pour divers comités. Alors, il a passé quelques appels téléphoniques et effectivement, depuis, la ville a mis à jour ses communications, mais a aussi corrigé la politique qui autorise désormais les personnes en situation de handicap à accéder à cette fameuse porte à Guermane, parce que c'est beau vouloir rendre un bâtiment plus sécuritaire en contrôlant les visiteurs, mais il faut aussi que tous les visiteurs, y compris ceux en situation de handicap, puissent entrer. Je vous parlais tout à l'heure du Festival des films sur le handicap. Il s'agit d'un festival qui s'est déroulé à Lyon du 7 au 12 février dernier. La soirée de remise des trophées s'est déroulée à l'Institut Lumière de Lyon en présence de nombreuses personnalités du cinéma, des médias, de la vie politique locale et les associations étaient là. C'est quand même un festival qui prend de l'ampleur au fil des années. Alors, je vais passer un petit peu avec vous, voir qui sont les lauréats. Alors, tout d'abord, il y a un prix. On ne dit pas pourquoi cette personne-là a un prix qui porte son nom, mais un prix Pascal Duquesne. C'est le film « Chuskit », un film indien qui a remporté le prix. Le film raconte l'histoire de Chuskit, justement, qui rêve d'aller à l'école et son rêve d'aller à l'école s'arrête après un accident, puisqu'elle doit désormais vivre à l'intérieur en compagnie de son grand-père. Elle continue à nourrir ses espoirs d'aller à l'école, mais son grand-père très strict lui fait comprendre que l'école ne pourra pas gérer ses besoins, et elle va finalement convaincre donc son grand-père. C'est un film qui a remporté plusieurs prix. Il a aussi remporté ex aequo le prix du meilleur long-métrage fiction. Est-ce qu'il en a remporté d'autres? Je pense que c'est tout. Dans les prix du meilleur long-métrage fiction, il y a aussi le prix Un projet de fou, un film français de Jean-Marc Bourillon qui raconte l'histoire d'un patient qui a des troubles psychiques qui rêve de faire un film et qui va tout faire pour convaincre ses partenaires d'infortune du centre thérapeutique de l'aider à réaliser son projet. Il y a eu une mention spéciale aussi pour le film « À mort » de Raphaël Rébibeau, une collaboration France-Israël. Le prix du meilleur long-métrage documentaire est allé à « Do You Feel What I See » de Bich Wong Nok. C'est un film vietnamien, un film qui raconte qui demande quel est le monde des aveugles, que voient-ils réellement de toutes les choses de la vie autour d'eux. Sans une perdue brillante, les aveugles ont toujours leur propre façon de vivre, de communiquer les uns les autres. Donc, un film qui fait entrer dans le monde des aveugles pour apprécier ce que nous avons réellement et comprendre la valeur des petites choses simples de la vie. Un vocabulaire souvent utilisé quand on parle de handicap. Le prix du meilleur court-métrage jeunesse est allé à The Swimsuit Session d'Antonio Valvo, un film italien qui parle de grossophobie, en fait. Une mention spéciale est allée au film The Piano Teacher, un film de Ryal Daniels, un film du Sri Lanka qui raconte l'histoire d'une pianiste de renommée. On ne dit pas quel est le handicap de la personne dans le paragraphe de handicap.fr. Aussi, le prix du meilleur court-métrage fiction est allé à My Name is Peta, un film russe, une mention spéciale au film Tragically Deaf de Max Corkindale, un film australien. Le prix du meilleur court-métrage d'animation est allé à Kring. Le meilleur court-métrage documentaire, Le Paris d'Annette. Le meilleur court-métrage, Troisième Ange. Un autre titre mal expliqué, le film Trois Pages. Un film québécois, tiens, gagnant. Le prix meilleur court-métrage de l'Académie de Lyon est allé au film Plume de Marjolaine Delécluse, un film français. Et le prix du meilleur court-métrage de sélection, Fais-moi du cinéma, est allé au film Potasticho. Alors, vous pouvez peut-être aller voir le site du Festival de films sur le handicap de Lyon pour avoir plus de détails. Malheureusement, on n'a pas réussi à joindre notre invitée, Karine Mirgiani-Jean-François, pour parler de violence conjugale. On va essayer de se reprendre avec elle la semaine prochaine. C'est tout pour Accélibre cette semaine. On espère que Luc sera là la semaine prochaine. Et si vous nous écoutez en direct, restez à l'antenne pour écouter l'émission J'entends des voix que j'anime aussi et où on parlera du balado Le Casanova de Montréal.